Bonsoir à tous, bonsoir Jacques Martinez. Vous êtes peintre, sculpteur, graveur, si je ne me trompe. Pour vous, c'est être peintre, sculpteur, c'est vous auriez pu être, je ne sais pas moi, médecin par exemple, ou professeur. Pour vous, c'est ça veut dire quoi ça, par rapport à votre place dans le monde ?
Alors écoutez, médecin, c'était le rêve de mes grands-parents qui m'ont élevé.
Ah oui, ça je ne savais pas.
J'ai commencé, j'ai été enseignant pas longtemps, parce que j'ai fait des études de philo, j'étais en hypocagne, et puis j'étais mauvais élève, mais après, sauf qu'en 68, à la faculté de Nice, la section de philo, et les enseignants, comme j'avais été leader étudiant, ils ont dit, si on lui donne des petits trucs à lui, peut-être qu'on sera tranquille. Donc ils m'ont donné tous les trucs de monitorat qu'ils pouvaient me donner. Et même, j'ai eu le titre universitaire le plus petit, j'étais chargé d'enseignement. Après, on est assistant. Enfin, à l'époque, on est assistant, maître assistant. Mmh. Et donc, mais je me suis rendu compte assez vite, et on arrive à la réponse, que, enfin, au début de réponse à votre question, que j'étais... moins heureux que je ne l'étais quand je ne faisais pas ça. C'est-à-dire que, comme tout le monde à 17 ans, j'ai écrit des poèmes, j'ai fait des dessins, et puis la vie décide pour vous. Il y a deux manières de penser. Les choses, enfin, y a la manière un peu sartrienne. Mmh. L'homme est un projet qui, tous les jours, décide qu'est-ce qu'il va être. Et j'avais fait un exposé en philo, où on avait encore quelques cours de français, comme on disait. Et j'avais fait un exposé sur le dernier tome du Chemin de la Liberté de Sartre. Mmh. Je crois que j'en parle un peu dans le livre.
Oui, tout à fait.
Et j'avais pas dû être mauvais, puisque Madame Otavie, m'avait dit, écoutez, il faudrait que vous rentriez en hypocagne, et son mari enseignait au lycée Masséna, et c'est comme ça, que, grâce à Brunet, et grâce au fin du Chemin de la Liberté, que je suis rentré en hypocagne. Et donc j'avais dû être assez clair et concluant, mais j'avais quand même précisé déjà que je sentais que c'était pas vraiment ma manière d'aller vers les choses. Et
cette manière d'aller vers le monde.
Voilà. Et les trois manières, on en parlera après si vous voulez. Donc, d'un côté, il y avait la faculté du boulevard Carlone à Nice, où je faisais des travaux pratiques, j'occupais de la bibliothèque, et puis je faisais des cours. Et puis, d'un autre côté, il y avait les dimanches, disons, et où je dessinais, où j'essayais de faire des choses qui ressemblent à des œuvres d'art, puisque je vivais donc à Nice, et à Nice, depuis longtemps, on avait une familiarité avec les choses de l'art. J'explique dans mon livre comment on a une vraie histoire, et c'est assez formidable, depuis les temps les plus reculés, jusqu'à, quand je vous raconte ça, Picasso était encore vivant, Chagall était encore vivant, il y avait... Matisse était mort il n'y a pas longtemps. Il y avait déjà un musée Matisse, petit mais formidable. Et puis il y avait ce que les Niçois allaient appeler l'école de Nice, qui est une appellation auquel ils sont attachés, mais c'est pas forcément. Je me reconnais pas forcément dans cette définition, dans ces choses-là, dans tous ces gens-là, mais il y avait des gens qui m'impressionnaient à l'époque, qui étaient Armand, Yves Klein, qui était très présent, même s'il était mort, Martial Reiss, que je croisais assez régulièrement, même si maintenant, quand je le croise, il est un peu plus distant, mais il y avait tout ce passé-là. Et puis il y avait un personnage qui est très connu, qui est Ben, qui avait un tout petit magasin, rue Tontutil-Escarène. Ce magasin, on peut le voir au centre Pompidou quelquefois, et on n'arrive pas à imaginer quand, un jour, je me souviens en allant voir ce magasin, raconter à des amis tout ce qu'on avait fait dans ce magasin, et quand on est arrivé devant ce qui est une œuvre maintenant, je voyais bien leur regard qui pensait que j'étais peut-être plus marseillais que niçois, parce qu'ils pas pensaient que tout ce qu'on avait fait, effectivement, je regardais, et tout ce qu'on avait fait là-dedans, tout ce qui s'était passé, il s'est passé des choses formidables. À l'époque, il y avait des maisons de la culture. Enfin, bon, et c'était une espèce de maison de la culture à nous, sinon que, en regardant la pièce dans laquelle nous sommes, je me rends compte qu'il rentrait quatre magasins de Ben là-dedans, quoi. Mais là-dedans, j'ai vu les premiers Boltanski, J'ai vu, on avait des revues, Ben avait des revues comme Art Forum, qui était absolument bon. Hein. Et puis, il y avait des fêtes quand Armand revenait de New York. Ben, on a des photos de ça, elle mettait une espèce de fauteuil qui ressemblait un peu à celui d'Emmanuel sur son break de chevaux. Et, il allait chercher Armand, on allait le chercher. Enfin, tout ça était. Et puis, il nous racontait, il nous parlait de New York, ce qui était quand même assez formidable. Et tout ça. Et tout, donc, il y avait cette vie d'un côté que j'aimais, cette chose que j'aimais qui m'intéressait. Mais de l'autre côté, bon, les nécessités aussi de la vie. Il fallait bien que j'avais déjà fait de la peine à mes grands-parents en n'étant pas médecin, en ne faisant pas d'études de commerce. Alors, l'étude au fond, philo, il savait que ça se passait plutôt pas mal. Socialement, déjà, l'enseignement était moins respecté que le reste, que l'économie. Mais comme c'était des gens charmants et qui aimaient les choses de l'esprit, ils s'en contentaient. Enfin, ils en étaient même quelquefois un peu fiers. Et puis, la vie a fait que... Un jour, je me suis rendu compte que c'était vraiment, c'était pas mon truc. Il n'y a pas d'enseignant dans la salle, mais je ne m'entendais pas bien. Il s'était très mal conduit avec Max Gallo, que j'aimais bien, puisqu'il commençait à avoir une espèce de vie parisienne. Ils avaient décommandé une réunion d'enseignants, enfin des enseignants au fin du mois de juin. Et quand il était revenu, il avait un emploi du temps où il avait un cours tous les jours. J'avais trouvé ça assez minable, je m'étais un peu engueulé avec tout le monde. Et puis, il y avait eu une espèce aussi en section de philo. On s'était réunis, puisque j'étais admis avec les enseignants, pour penser, parce qu'il y avait des jeunes althusseriens qui étaient des gens formidables, qu'au fond, il fallait. Que la philosophie cesse de subvertir un discours scientifique et que, puisqu'on admettait que la sociologie, la psychologie étaient en passe de devenir peut-être des sciences humaines, mais indépendantes, que les enseignants de philo qui avaient tous plus ou moins des connaissances en socio et en psycho abandonnent ces cours de socio et de psycho qui étaient optionnels et que ça revienne aux sections de psycho et de socio. Et j'avais trouvé que c'était tout à fait juste et que c'était bien. Mais après, on m'avait expliqué que la section avait des heures supplémentaires et que si on ne faisait pas ça, on perdait sur... Enfin, tout ça m'avait énervé. J'étais beaucoup plus jeune, donc un peu plus nerveux. Je leur avais dit mon sentiment, que je ne changerais pas d'avis, que notre position théorique était juste et que cette position comme ça de minable, enfin j'étais parti et j'avais tout arrêté. Mmh. Et puis j'avais eu à ce moment-là une espèce d'enchaînement de moments de chance, puisqu'il y avait une exposition à Nice, l'école de Nice, César Armand avait demandé que j'y participe, j'avais participé, et il y avait à l'époque, il y avait des agents d'artistes, en fait, je pense que ça, il n'y en a plus maintenant beaucoup, et qui s'appelait Bernard Lucas, qui s'occupait de César et d'Armand, en tout cas dans le Midi, et aussi à Paris pour Armand, et qui avait commencé à me vendre des toiles. Moi, c'était absolument formidable. Chaque fois que, d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand je vends quelque chose, je suis à la fois aussi heureux qu'étonné. Et donc, à ce moment-là, je suis devenu artiste. Alors, j'ai eu une exposition, et puis les choses sont... Voilà, Daniel Templon est venu, enfin, Catherine est venue à Nice, elle a mis mon travail, puis les choses se sont enchaînées. Donc, sans que je le choisisse vraiment, sans que je le décide. Et pour la première fois, je crois, effectivement, dans ce livre, je raconte qu'à un certain moment, c'est-à-dire beaucoup plus tard, le jour de mes 59 ans, j'ai pensé qu'il fallait que... Je garde par rapport aux jours et aux heures et aux saisons cette liberté qui avait été la mienne jusqu'à présent, mais que j'étais quand même obligé à un certain moment de faire un point. Et c'est encore. Enfin, si j'ai pris cette décision, c'est pas parce que c'est pas simplement. Enfin, c'est pas à partir d'une réflexion auquel aurait pu me conduire mes études de philo, mais à partir de trois choses. Trois fois, on m'avait dit arrête de faire. Des gravures de merde. Une fois, j'avais assisté à ce mariage que je décris et j'avais appris la mort de Benedetti que j'avais croisé et qui m'avait pour moi, je raconte comment dans le livre cet homme que je croyais appartenir à une pensée de gauche, à Lévinasien, revendiquant son attachement à la pensée de Lévinas, qui me semblait toute faite de légèreté, de non, enfin de non poids de la terre, de, je vous dirais quelque chose de drôle et qui n'est pas de moi, de nom, et tout d'un coup je le voyais enfermé dans une terre, revendiquant une terre et des racines, et puis une foi, mais avec des attributs assez violents pour moi, la kippa, etc. C'est, je dis dans le livre, c'est comme si des amis que j'avais croisés dans les différents mouvements gauchiste que j'ai fréquenté assidûment à une époque, je l'avais retrouvé sortant de Saint-Nicolas du Chardonnay, quel que soit le respect que j'aurais pu avoir de foi, ça m'aurait un peu choqué, même si peut-être qu'aujourd'hui, je comprends mieux Benny Lévy, et qu'au fond, je ne suis pas choqué quand je voyais un copain d'enfance sortir de Saint-Nicolas du Chardonnay, mais c'est une autre histoire.
Voilà. Parlez-moi, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. C'est la manière, les trois manières.
Ah oui.
Donc voilà, c'est de
alors,
ça.
Voilà. Alors effectivement, quand ce fameux 7 juillet 2003, où je suis seul, où Marie n'est pas là, où je me promène dans Perpignan, où je vais déjeuner seul chez un ami et je bois, je mange et je suis bien, j'arrive, si vous voulez, à me dire maintenant il faudra que je réponde à la fois aux trois questions et après j'arrive aux trois manières de voir le monde. Les trois questions, c'était qu'est-ce que je suis, de quelle terre je suis et comment quel rapport je m'entretenir avec l'idée d'une terre et d'une racine, de quelle religion je suis et au fond quel type de peinture je fais dans ce monde où je vois plein de choses qui sont très différentes de ce que je fais. Et assez rapidement, pas ce jour-là, mais très vite, je m'aperçois de manière plus générale qu'il y a trois manières d'aller vers le monde. Il y a une manière qui serait celle de ceux qui veulent le comprendre, l'analyser. Ce sont donc, pour moi, c'est... Peut-être me trompe, est-ce que je me trompe, mais c'est la manière des savants, la manière des philosophes. En tout cas, c'est ce que je gardais mes études de philo. Ça sert à ça. Pourquoi ça se passe et comment ça se passe depuis une réflexion peut-être sur la cité, mais sans vouloir y intervenir, puisqu'on connaît les malheurs qui sont arrivés à Platon, chaque fois qu'il a voulu intervenir dans la cité, jusqu'à une manière vieille comme la métaphysique, qui est en même temps que Platon, et d'ailleurs chez Platon, il y a ça aussi, dans le Timée, des choses comme ça sur l'être, et puis jusqu'à ce que j'ai essayé de lire, mais plus difficilement, quand j'étais étudiant en philo, c'est-à-dire Heidegger, des choses comme ça. Donc il y a cette manière, et puis bon, la manière donc d'essayer d'interpréter le monde, de le comprendre et de le rendre plus clair, celle des philosophes. Il y a une autre manière qui est celle de ceux qui veulent le changer, et ça, c'est la manière, selon moi, des gens qui prennent en charge le monde, qui sont les politiques. Et entre le vouloir le comprendre et le vouloir le changer, il y a quand même des passerelles. Puisque, en tout cas, certains ont dit que maintenant, on avait à s'interpréter qu'il fallait le changer, c'était des philosophes. Enfin, le lieu qui était le leur, quand ils tenaient le discours, c'était des philosophes. Mais plus près de nous, n'oublions pas que des partis politiques, aussi bizarrement que ça puisse paraître, qui ont après été un peu discrédités par l'histoire du Parti radical, par exemple, qui est aujourd'hui représenté par quelqu'un de notre voisin de Toulouse, le Parti radical avait un philosophe qui s'appelait Alain et qui établissait le programme du parti. Donc si vous voulez, il y avait les philosophes interprètent le monde, nous disent ce qu'on doit faire et nous, les politiques, on va le changer, on va le faire, etc. Et puis il y a la troisième manière qui est celle de ceux qui veulent le fabriquer, le faire avec des couleurs, avec des mots, avec des lignes, et ça va, en gros, des architectes aux poètes. Et dans ce champ-là, il y a aussi les peintres, les sculpteurs. C'est une manière à la fois peut-être plus modeste, puisqu'elle n'engage qu'eux. Et ceux qui vont les regarder, ou ceux qui vont les vivre, ces maisons, mais en même temps, on s'aperçoit, quand on est à Athènes aujourd'hui, par exemple, que... Il reste des choses de ceux qui ont voulu simplement faire le monde, quand on est à Florence aussi, ou quand on est dans les musées. C'est peut-être plus modeste, et puis c'est peut-être à la fin pas si modeste que ça. Et peut-être ça a une importance assez forte. Je ne suis pas sûr qu'on se souvienne qui était premier ministre de ce pays dans lequel nous sommes, le jour où Matisse a fait la danse,
oui,
voilà, alors qu'on a encore la danse, on en a même trois. Voilà, est-ce que j'ai répondu un peu ?
Tout à fait. Bon. Donc vous êtes peintre, comme je disais, sculpteur, mais, et ça je l'ai compris après lecture de votre livre, vous êtes un conteur. Vraiment, avec vous, on est capté. Parce que votre livre est de l'ordre presque de la conversation aussi avec le lecteur. Vous nous faites aller aux quatre coins du monde, vous nous faites partir vers le futur, le passé, le présent. Vous répétez, vous n'avez pas peur de la répétition, vous n'avez pas peur de la digression. On est, je dirais, perpétuellement dans un mouvement. Dans un mouvement, et vraiment, vous avez l'art de compter.
Bon, alors, écoutez, merci. Sinon, juste, on est plutôt aux quatre coins de l'Europe.
Oui.
Voilà.
Nous en reparlerons, je pense.
Voilà. Aux quatre coins de l'Europe, et merci. Alors, si, effectivement, mais en même temps, si vous voulez, c'est... moi, je suis partisan de cette phrase de Wilde, l'art est un mensonge, mais le livre n'est pas entièrement mensonge. C'est vrai qu'au début, il y a quelqu'un qui me pose des questions et qui n'a pas vu l'exposition dont je parle.
Mmh.
Et que ça commence vraiment comme ça. Mmh. Donc, effectivement, en plus, comme je ne sais pas trop... enfin, je ne suis pas un théoricien ni un écrivain, c'est plus facile pour moi de m'adresser à quelqu'un que de... Enfin, je n'ai pas la prétention de faire quelque chose de théorique. Je raconte une histoire, etc. Mais... Il pourrait y avoir une autre manière, si vous voulez, moins sympathique de décrire ce que vous venez de décrire, c'est cette espèce de prévention qu'on aurait vis-à-vis d'un artiste qui parle beaucoup de son travail. Ce n'est pas la vôtre, mais on pourrait l'avoir au fond. Par exemple, si on prend les textes théoriques dans le 19e siècle, souvent... Pas toujours. Je crois que, je sais pas, aux enfants et Jeanneret ont mieux parlé du cubisme que les peintres qui l'ont fait, par exemple. Mais ça, je ne suis pas d'accord. L'idée que, et ça, pas chez vous naturellement, mais ça pourrait renvoyer chez d'autres personnes à l'idée qu'au fond, le peintre qui réfléchit, qui lit, etc., c'est un peu louche. On a cette image, le peintre maudit qui boit, qui se drogue, etc., ça, est un peu fou, c'est de la valeur ajoutée que je ne partage pas pour des raisons alors qui sont pour le coup vraiment vraies, fortes et historiques, qu'une force historique, puisqu'on sait tous, nous savons tous que le premier qui inaugure cette réflexion sur l'art, en général, sur le sien et sur les autres, et qui, en même temps, crée la critique d'art et l'histoire de l'art, il s'appelle Giorgio Vasari, et c'est un immense peintre et un immense architecte. Donc, non, on peut être bon peintre et bon architecte, et excellent, et aussi réfléchir à ce qu'on fait, même à ce que font les autres, avoir un jugement, puisque Vasari est souvent assez sévère avec les autres. Voilà. Donc, ça va ?
Oui, mais dans ce texte, ce qu'il y a de vraiment passionnant, c'est de voir comment vous nous faites rentrer dans une intimité biographique, et là je vais y revenir, et dans une intimité du processus, je dirais créatif, mais pas d'une manière théorique. C'est-à-dire, quand je dis théorie, c'est-à-dire d'une manière très sèche, mais au contraire, avec ce que vous êtes, Jacques Martinez. Et c'est pour ça que je vais revenir sur les sources biographiques, parce que les sources biographiques, on sent qu'elles ont véritablement nourri votre travail et votre œuvre. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes né en Algérie, en 1944.
Oui.
Dans un quartier qui se situe au-dessus d'Alger. Vous avez passé votre enfance à Bonn, qui maintenant s'appelle Annaba, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Vous êtes parti d'Algérie. En 1956, vous êtes arrivé avec votre maman à Nice, où vous nous avez déjà raconté certaines choses. Vous avez rencontré donc plein de gens. En 1973, vous êtes parti à Paris, Vous avez rencontré plein de personnes, entre autres Catherine Millet. On en reparlera aussi.
Hélène
Lemoine, voilà, qui n'est pas loin. Vous avez exposé pendant très longtemps à la galerie Templon, ensuite à la galerie Jean-Gabriel Mitterrand, oui, c'est ça. Et ensuite, vous vous êtes installé, tout en ayant un pied à terre, on va dire, à Paris, vous vous êtes installé en Catalogne. Et c'est en Catalogne que, je dirais, tout ce livre... Enfin, pas le livre, mais tout ce dont vous nous parlez va tout d'un coup surgir dans une espèce de catharsis. Moi, j'appelle ça une catharsis. Un jour de juillet 2003, à Perpignan, vous êtes dans la Lune, le journal Pays sous le bras. Évidemment, vous n'avez pas vu des voitures, vous voulez traverser une rue. Une voiture a failli vous renverser. Et là, sort de la voiture en furie, un homme, une femme, des enfants qui apparemment sont pas beaux et qui vous regardent à travers la fenêtre. Et là, il vous traite d'espagnol de merde, ce qui fait partie donc du titre de votre ouvrage, Espagnol de merde, ou la longue et véritable histoire des cinq saisons. Alors, c'est ce moment, je dirais presque de naissance, de catharsis et aussi de synthèse, puisque c'est la synthèse de trois questions, et je dirais de catharsis parce que tout d'un coup, ça va provoquer chez vous, voilà, quelque chose qui va vous amener à la création de ce qu'on va appeler, je vais pas savoir le prononcer en catalan, les cinq stations. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment de juillet 2003, parce que c'est quand même la genèse d'une œuvre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant.
Merci. Alors, comment vous dire ? Tout à l'heure, je vous ai dit comment, modeste enseignant en philo, tout d'un coup, j'avais arrêté pour faire de la peinture tout le temps. Et à temps plein. Et structurellement, c'est la même chose qui s'est passée quasiment 30 ans après. À savoir que ce qui s'était passé dans le début des années 70... c'est que tout d'un coup, il y avait ce que j'aimais d'un côté et ce qui m'avait intéressé, mais que j'aimais plus de l'autre. Et il n'y avait aucune raison. Enfin, j'étais de mal dans cette espèce de vie séparée en deux. Donc j'avais laissé tomber l'enseignement pour ne faire que de la philo à plein temps. Et ce qui s'est passé le 7 juillet 2003, c'est que qui est arrivé. Vous savez, les choses arrivent, enfin en tout cas, il y avait une jolie phrase de Catherine Fremblin qui était critique, qui écrivait à l'époque, qui était le discours, la peinture commence quand le discours s'arrête. Donc je suis un peu gêné pour essayer de. Enfin, je vais essayer d'être clair. Je me suis rendu compte que, avant, j'ai fait des peintures, des choses que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, m'arrivait à me racheter. Par exemple, vous avez une chose que j'adore, rue Ozone ici, que j'ai faite dans la joie, dans le bonheur, enfin, vous pourrez en parler, et qui est vraiment. Je la revois quelquefois, elle me revient dans la vie. J'ai failli travailler avec une galerie il y a 2 ans, et la personne qui est venue me voir pour quelque chose chez elle, après ça s'est mal passé pour d'autres raisons, mais elle voulait, pour me convaincre, elle a ouvert son agenda, et elle me dit, écoutez, depuis des années, j'ai la photo que j'avais enlevée, que j'avais arrachée dans elle, de la rue Ozone. Et pour vous dire combien je suis attaché, etc. Et je pense qu'il y a quelques années, je me promenais à l'île de Ré, et il y avait, on m'a vu, et le soir où j'étais chez des amis, et une dame me téléphone, me dit, vous savez, vous êtes chez... chez Christian, j'aimerais vous voir parce que j'avais fait un reportage chez Hélène Lemoine et cette toile, etc., c'est formidable. Etc. C'était Madame Desmoulins, ou tu te souviens? Donc voilà, donc cette toile, tu veux dire qu'à la fois si je l'aime mm-hmm. et si j'aime, s'il y a des choses que j'ai fait avant le 7 juillet 2003 que j'aime beaucoup, quelque chose dont je suis fier, etc. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que je me suis rendu compte qu'au fond, il y avait d'un côté peut-être mon travail, de l'autre côté ma vie, et que ce que s'était passé le jour où j'avais cessé d'être enseignant pour devenir peintre à plein temps, j'allais encore plus loin dans cette direction-là, c'est-à-dire que les choses se rapprochaient de plus en plus entre ma vie et ce que je faisais. Et j'avais eu cette impression-là. Alors, si vous voulez, les choses ne se décident pas en une journée, enfin, je crois pas. Et j'avais eu ce sentiment-là quand, au début des années 90, le service culturel français en Italie m'avait demandé si je ne voulais pas participer à ce qui était déjà la Biennale Off à Venise, dans le Casino Venière, qui est une magnifique petite maison, de faire une exposition là. Et j'avais dit oui, naturellement, j'étais très, très heureux. Et j'étais parti à Venise, et j'étais parti à Venise avec un maître. C'est-à-dire avec l'idée de mesurer, de voir. D'une part, j'avais mon atelier dans la tête, d'autre part, j'avais les murs. Et je prenais des mesures pour savoir quelle toile j'allais mettre. Et je me souviens que ce jour-là, j'avais été récupéré par des Vénitiens charmants que nous connaissions. Oui. Et qui s'occupait de moi, et donc il m'avait promené dans Venise, et tout d'un coup je m'étais dit, c'est quand même idiot parce que je suis à Venise, et j'avais vu des tableaux de peintres qui étaient venus à Venise, et quand un peintre est à Venise, il peint Venise. Pourquoi mettrais-je le réfrigérateur avec le truc que j'ai fait à Paris, à Venise, qui ne mérite pas ça. Enfin, je suis pas là pour. Je suis à Venise, autant en profiter. C'est bien si. C'est idiot. Et donc, j'avais regardé Venise, et j'avais réfléchi à Venise, je m'étais rentré. Enfin, et l'exposition que j'ai faite après, c'est au fond mon carnet de notes dans mon séjour vénitien. Je me suis rendu compte que Venise, c'était alors j'avais été frappé. En plus, les choses se passent au fond, je crois, en tout cas malgré nous, en tout cas malgré moi. Quand j'arrivais en avion, j'avais vu, comme j'avais jamais peut-être vu, la lagune de Venise. C'est-à-dire, j'avais vu toutes ces îles comme ça. Et en rentrant dans le casino Vénière, c'est assez bizarre, j'avais des vieux miroirs et je vois des choses qui sont un peu comme un Rorschach, enfin qui ressemblent aux îles que j'avais vues. Et donc, d'un coup, Venise était ce que je connaissais Venise depuis 1954, il y avait très longtemps, mais j'avais jamais vu les îles comme ça. Et d'un coup, Venise, ce jour-là, pour moi, c'était les îles. Et puis, il y avait ces jeux, parce que j'étais dans un casino, enfin, je m'en avais expliqué, etc. Venise qui est morte du jeu, puisqu'à partir du moment où le carnaval a duré 6 mois, alors que bon. Et donc j'avais décidé de faire une espèce d'exposition qui s'est appelée d'ailleurs Venise, les îles et les jeux. Et ce qui était entre eux. Donc, si vous voulez, bon, je suis là, je suis à Venise, je vis à Venise, je vivais dans des très bonnes conditions. Ses amis avaient une très jolie maison avec des facilités formidables. Donc j'étais entièrement à mon bonheur vénitien. Et en plus, ils venaient de racheter Venini. Donc je me suis dit, il y a du verre. Donc j'avais fait une pièce en verre. Donc si vous voulez, déjà, les choses se rapprochaient comme ça entre mon travail et ma vie. Et puis, et ce qui s'est passé ce jour-là, pour répondre à ces questions, j'étais obligé de mélanger le tout. Et donc, voilà pourquoi il y a eu ces 5 saisons, enfin, qui étaient 8 au départ. Mais d'ailleurs, si Catherine Millet m'a dit qu'il fallait en faire 5, c'est vrai, c'est que la différence entre ces 5 premières saisons et les autres, c'est que les autres, elles ne sont pas dans ma vie. Elles sont, c'est réussi, mais c'est des, donc, voilà comment les choses se rapprochent. Et je vais même vous dire quelque chose, c'est que maintenant, je travaille sur une prochaine exposition qui s'appelle Giribisi, ou alors c'est encore beaucoup plus imbriqué. Il y a, si vous voulez, dans les 5 saisons, il y a une espèce de logique de la peinture et une logique de la vie, et j'essaie de les mettre ensemble. Et là, c'est encore beaucoup plus mélangé. Et là, un joli site s'appelle Giribisi, que je dois d'ailleurs à quelqu'un qui enseigne dans cette bonne ville de Bordeaux. Il y a un livre très joli qui s'appelle Le maniérisme, fait par Madame Falguière,
Oui, tout à fait. Et en donc, découverte également.
Et dans les dernières pages, il y a un lexique et Guiribizi est formidable. Malheureusement, un jour, quand elle quitte l'art maniériste dans l'art contemporain, j'adhère moins à son discours qu'en tout cas dans son livre. Voilà. Mais donc, Guiribizi, qui veut dire liberté. Voilà.
Donc, c'est ce travail sur les cinq saisons. Racontez comment, pourquoi ce titre ? Parce que je trouve ça.
Les cinq saisons ?
Oui.
Parce qu'au départ,
racontez,
le fameux jour où je tombe sur une vieille copine qui me dit, va avoir des déconvenues avec un atelier de gravure, elle me dit, mais arrête tes gravures, fais de la vidéo, fais de... Là, ce livre est formidable, c'est pas de moi, c'est Emmanuel Pirère, Ferry Général, j'en suis à la page, c'est extraordinaire, et donc moi je me trouve avec quelqu'un qui me dit, arrête tes gravures de merde, mais fais des vidéos, fais des installations, etc. Et ce jour-là, je suis un peu troublé, et je me dis, je sais pas, et je me promène dans Paris à pied, et je trouve un disque de où je vois marqué Guidon Kremer, Piazzolla, Vivaldi. Il se trouve que j'aime beaucoup Vivaldi, que j'ai même fait autrefois les décors d'un petit opéra qui s'appelle L'Icoronation di Dario, et j'avais même fait les costumes, et à l'époque le budget c'était 15 000 francs, c'était vraiment, les gens ne me croient pas, mais il y a des témoins. Et on s'était bien amusé, on a vu la première page du Monde d'un article de Jacques Longchamp, c'est formidable. Et donc, j'aime Vivaldi depuis longtemps, c'est pas pour moi, c'est un musicien formidable, c'est... les gens qui disent que c'est fait pour les ascenseurs sont des gens qui n'aiment pas les ascenseurs. Y a toute cette musique vénitienne qui va jusqu'à Tartini, que j'adore, j'aime beaucoup. Et j'adore Vivaldi. Je pourrais parler longtemps de Vivaldi, d'ailleurs, c'est plus facile de parler des choses qui sont loin de vous. Et donc Vivaldi, Piazzolla, j'adore Piazzolla. J'ai un souvenir avec Piazzolla, un jour d'orage dans les jardins du musée Rodin, absolument magnifique. Et j'aime beaucoup Guidon Kremer, et j'aime surtout la manière qu'il a. Et ça me revient à un souci qu'il met en tant que peintre, d'être contemporain à la manière que peut-être Farnèse, c'est-à-dire que d'enregistrer et de s'intéresser aussi bien à Jean-Sébastien Bach qu'à Phil Glass, et ça je trouve ça formidable, et d'avoir traduit par exemple entièrement Piazzolla en violon, etc. Donc je vois marqué 8 saisons, je comprends pas, j'achète le disque et je rentre chez moi, et effectivement comme souvent la musique me fait du bien, puisque j'explique dans le livre que je suis pas musicien, que je, malheureusement, je sais, on m'a obligé, c'est mon plus grave regret, je ne sais pas lire une partition, je n'ai pas fait de solfège, mais en tout cas, donc j'ai un rapport idiot avec la musique, mais en tout cas, ça me fait du bien, et certains m'en font, d'autres pas, et cette musique me fait du bien, me calme, et je garde ce disque. À l'époque, on n'avait pas on ne synchronisait pas avec les iPods, on a encore des CD. Donc, effectivement, après les heures passées chez mon ami Pierre-Henri de la Fabregue à manger du boutin catalan et à boire du vin de notre région, puisque rentre une ambassadrice de cette région-là formidable, donc avoir du vin fait de grenache et de ces cépages que j'aime, la voiture se met en marche, et à ce moment-là, redémarre les 8 saisons. Et ce qui vient tout d'un coup, comme si vous voulez, c'est, vous savez, pour voir quelque chose, quelquefois les archéologues partent le matin très tôt, et selon la lumière, on voit des choses qu'on n'aurait pas vues avec certaines lumières. Donc tout d'un coup, à ce qui se commençait à se dessiner, arrive cette musique qui rajoute un éclairage. Et je me dis, au fond, c'est ça. Pour essayer de réfléchir, je vais prendre 8 saisons, parce que 8 saisons, d'abord, ça me permettait de passer de mes 59 ans à mes 61 ans, c'est un passage comme ça. Et en même temps, 8 saisons, c'est un temps qu'on peut avoir dans sa tête. Enfin, en plus, je sais comment je travaille, c'est-à-dire assez lentement. Donc, ça m'allait bien, 8 saisons. Et le soir, quand je viens de me retrouver sur la plage de Toreil, où nous allons souvent avec Régine Nez Doré, qui vient d'arriver, et que j'arrive un peu en avant. Et quand Catherine et Jacques arrivent, il y a effectivement cette histoire de Van Gogh, etc. Et je leur dis, voilà, et je leur décris rapidement ce que je dis dans le livre. Je vais travailler pendant 8 saisons et je vais voir où j'en suis de mes terres, de ma religion et de ma peinture. Et ils me disent, d'accord, on va suivre ça. Et ils le suivent.
Et donc, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Et un jour, vous invitez Catherine Millet et Jacques Henrich à venir dans votre atelier d'Arcueil voir, on va dire, l'aboutissement de ces années création.
Alors, j'ai pas mis 2 ans, j'ai mis 3 ans.
3 ans, voilà.
Et puis, effectivement, un jour... parce que l'idée, c'est qu'ils, d'abord, ils étaient, à un certain moment, ils pensaient que je finirais jamais. À d'autres moments, ils y croyaient un peu plus. Et je leur disais toujours, ça avance. Et comme les choses se précisaient quand même à un certain moment, nous avions convenu qu'ils viendraient un dimanche parce que la circulation à Paris le dimanche est plus facile qu'à Paris dans la semaine, ou d'ailleurs qu'à Bordeaux le vendredi soir. Donc on dit le dimanche. Mais donc je termine tout ça un vendredi. Et effectivement, à partir du moment où je leur dis de venir et le moment où ils arrivent, je me promène à nouveau dans l'atelier. Si vous voulez voir l'atelier, vous pouvez le voir. Je cite, si vous regardez les catalogues.
Oui.
Le catalogue des 5 saisons, on voit l'atelier vide et l'atelier plein. Donc voilà, donc ils arrivent dans l'atelier. Et à ce moment-là, il se passe ce que je raconte, à savoir que bon, je passe par différents moments où je pense que leur silence est une manière polie de m'annoncer que c'est pas bien. Et puis à la fin, ils me disent que c'est plutôt pas mal et ça me fait plaisir. Voilà.
Et donc toute cette partie de l'atelier d'Arcueil, c'est une promenade. C'est une promenade devant chaque tableau et vous nous racontez vraiment le comment, le pourquoi de ces œuvres. Alors malheureusement, on n'aura peut-être pas le temps de parler de tous les tableaux, je le regrette. Alors par exemple, vous pourriez nous parler de September Porbou, parce que j'aime beaucoup Walter Benjamin. Et je trouve que ce que vous dites est... Voilà.
Voilà, bon, alors... Voilà, donc, l'idée, que, enfin, une espèce de règle, parce que j'en avais essayé d'avoir, c'était que je ferais quelque chose par mois, comme on met des petits points, comme ça. À la fois les petites pierres de la jeune fille, là, qui machin. Et donc, effectivement, je me trouvais en septembre en Catalogne Nord, dans la vallée de l'Agly, dans la maison familiale de Régine, et on décide avec toute une bande d'aller à Porbou pour voir une très belle chose qui est un hommage à Walter Benjamin, Walter Benjamin, puisque vous prononcez plus justement que moi, fait par Danny Caravan, qui est un artiste que j'ai pas toujours aimé, mais enfin on peut pas aimer tous les derniers. Et là, il a fait une chose qui est magnifique, vraiment très 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 belle, un truc non, vraiment une chose magnifique, vraiment incroyablement belle. Il faut aller à Port-Boulevard. Malheureusement, il y a des imbéciles qui l'ont vandalisé, mais à chaque fois, la région le remet en état. C'est un truc très beau, très très beau. Donc je retrouve à Port-Bou, qui est un village ingrat, un village du bout du monde, un village pas beau Port-Bou. C'est rien, c'est rien du tout. Et en plus, je suis là. J'y étais allé une première fois avec... quand l'école d'Avignon avait fait une espèce de folie où il y avait Houellebecq, il y avait tout le monde, c'est assez bizarre, tu aurais folle, mais c'était la nuit, et puis c'était drôle, j'avais pas bien vu, et là j'y retourne, sinon je passais en train dans cette gare de Porbou, qui est un peu plus grande que la gare d'Orsay, dans un village où il y avait 300 habitants, donc j'étais là, ce jour-là, j'étais en bas, dans la ville, moi je ne payais la moyenne, on mange mal à Porbou, et puis il y avait quelques magasins de souvenirs absolument horribles, avec des nécessaires à paella, parce que des touristes vont venir qui ne viennent jamais. C'est un peu comme la chanson de... C'est le désert des Tartares, on attend le guerrier, la guerre, comme on attend le touriste à Porbou, il ne vient jamais, et c'est moins de qualité que la chanson de Brel qui ressemble à ça, ou le désert des Tartares. Puis des d'horribles serviettes d'été avec des impressions en léopard, enfin, tout cauchemardesque. Je suis pas bien, j'étais avec des amis que j'aime vraiment beaucoup et depuis longtemps, et que quelquefois ils acceptent que je sois un peu étrange. Je pars me balader dans Portbou. Et je venais aussi de lire un livre de Thilard Rudel, que je devais rencontrer beaucoup plus tard, et dont on me dit qu'il a... Enfin, en tout cas, qui m'avait beaucoup... Enfin, qui m'avait intéressé énormément, selon ce que... De Walter Benjamin, je connaissais 3 textes, ou 4, ou 5. J'avais vendu un livre complet. Ces gens, c'était Le Monde, Adorno, toutes ces choses-là. Mmh. Mais ce livre est un livre qui n'est pas un livre de philo, mais un livre qui raconte la vie de Walter Benjamin dans les détails, et qui est très bien fait, avec quand il a vécu à Paris, comment, etc., et qui raconte surtout la fin à Portbou. Et avec des choses qui sont un peu triviales, mais je ne savais pas que Walter Benjamin était asthmatique. Et comme je suis asthmatique, chaque fois qu'un asthmatique, ça me rend encore plus... Enfin, c'est idiot, mais je suis plus près d'un asthmatique de quelqu'un qui ne l'est pas. Et de penser que cet homme-là, avec ses valises, aujourd'hui on a tous des trucs à roulettes, mais ses valises, ses livres, fuyant la mort, arrive là et se dit ces gens-là vont me renvoyer de l'autre côté, où c'est la mort assurée, et décide de disparaître, c'est terrible. Et alors que, bon, parenthèse, les méchants n'étaient pas forcément de l'autre côté, puisqu'ils n'ont pas renvoyé tous les gens qui étaient avec Benjamin, c'était nombreux. Et dans cet hôtel, il décide de mettre fin à ses jours. Et moi, mélangeant tout, je pense qu'il saute et il ne saute pas. Et l'hôtel existe toujours. En fait, il existait il y a encore quelques années. Il était vide, avec l'image de la mort. Il y a beaucoup de maisons vides dans Portbou. C'est bizarre, une maison abandonnée, triste. Et j'avais eu ce sentiment. Enfin, tout d'un coup, je ne l'ai pas mis quand je raconte Portbou, mais avec ma maman, nous avions passé un séjour au milieu des années 50 dans le lac de Garde, et je savais pas que le village où j'étais, c'était près de Salo, c'était les dernières maisons occupées par la République de Mussolini, et j'avais été frappé par tous ces il y avait encore un désordre de bureaux, de machins, c'était un truc incroyable, et il y avait ça, il y avait une idée de... Enfin, moi, dans Portbou, c'était ça, et puis il y avait la mort. Donc j'ai pensé à Walter Benjamin, tout ce qui s'était joué, parce que, en même temps, je sais pas, on pense tous à quelque chose. Quoi. Je crois que le jour où Walter Benjamin a décidé de se supprimer, de mettre fin à ses jours, il a mis fin à beaucoup de choses. Enfin, parce que, d'abord, bon, cette guerre qui est arrivée a quand même changé beaucoup de choses. Et si vous voulez, bon, les espoirs de changement du monde. En 39, on ne pensait pas que ça allait donner ce qu'a donné après les rêves socialistes qui sont tombés dans le cauchemar. Enfin, ils étaient déjà, mais on ne sait pas. Bref, donc je décide de rendre hommage à Walter Benjamin et je fais cette chose-là qui est à la fois. Bon, voilà.
J'ai répondu. Oui, mais justement, cette chose-là, tout ce que vous nous racontez là, c'est à un moment donné, ça va prendre forme. Dans ce tableau, et justement ce tableau, la manière dont il est construit représente la chute de Walter Benjamin.
Ce tableau, en même temps, il y a une erreur puisqu'il s'est pas jeté par la fenêtre.
Oui.
Mais voilà. Et dans ma tête, je vois ce balcon vide, etc. Je vois le truc et je ne pense que je... Bon, et je sais, je viens de lire le livre. Mais pour moi, il s'est jeté par la fenêtre et il y a donc. Son corps et je pense à un corps qui tombe. Et effectivement, quand on voit un corps qui tombe au cinéma, on voit surtout par terre, on voit pas. Et je vois cette espèce de descente comme ça, pas aux enfers, mais à la mort. Et quand je suis chez moi et que je joue avec les photos que j'aurais trouvées, etc., il y a cette espèce, ce dessin-là, pour moi, c'est une espèce de chute. Alors, effectivement, quand je le regarde le lendemain, je me mets à dessiner comme ça cette forme-là, voilà, oui. qui va en descendant, qui s'amenuise, comme si. Et puis, effectivement, quand je suis à Portbou, je suis pas loin de Figueras, enfin il y a effectivement de la montre molle là-dedans, même si Dali n'est pas mon peintre préféré. Et puis il y a un truc bizarre, c'est que je me souviens dans mon atelier le jour où, parce que je fais pas les choses en une journée, enfin bon, je suis très lent, très très lent, trop lent, mais à un moment donné, un jour, quand je suis devant ce dessin, d'un côté il y a les photos, l'autre côté il y a le dessin qui est pas le même, je pense à un générique de fin d'un film Thierry Normand de Sagan, où il y avait une espèce de larme qui ressemblait à ça. Je ne sais pas pourquoi ça m'avait frappé. C'est du cinéma variété à Nice, enfin, tout se mélange. Et après, alors il arrive à un certain moment, enfin, un truc qui est peut-être qui n'est pas du tout de l'ordre de la réflexion, qui est d'un coup, ça me plaît, ce dessin, comme ça. Ça me plaît, voilà. Je trouve ça beau. Alors, je ne sais pas, c'est pas assez bébête, mais voilà. Je trouve ça beau. J'aime cette forme-là.
Ouais, ouais.
Et donc, je m'abuse avec les images et je trouve que c'est bien. Voilà. Et donc, voilà l'hommage à Walter Benjamin.
On aurait envie de parler de tous les tableaux. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Alors, juste un petit mot sur Peinata, les femmes de Séville, parce qu'on sait votre amour pour ce pays et pour Séville en particulier, pour la corrida, pour la maestranza. Juste quelques mots, et puis après, on va revenir un peu en arrière. Quelques mots sur Auguste, Sainte-Marie des Lacs, parce que vous parlez des prés d'elle, et ce que vous dites sur les prés d'elle est très beau. Alors d'abord, on va passer, comme vous voulez, on passe des prés d'elle à Séville,
c'est
ou de Séville après.
Oui,
alors, on près d'elle, parce que je trouve que c'est un très beau mot, le mot de près d'elle. Et ce tableau est magnifique, je trouve, en plus.
Merci. Merci, c'est formidable, je vais revenir plus souvent. Écoutez, je vais écrire des livres, madame, que pour venir, Corinne, vous entendre parler de moi. Non, effectivement, alors bon, c'est le deuxième mois, c'est le mois d'août, voilà. Et alors bon, d'une part, il y a ce qui se passe au mois d'août. Enfin, les prés d'elle, c'est comme la lumière. Enfin, c'est, voilà. Quand on fait quelque chose, on le fait avec ce qu'on a, avec les couleurs dont on dispose. Effectivement, alors on va d'abord parler des prés d'elle. Effectivement, en gros, peut-être pour ça que les choses se passent bizarrement dans ma tête, dans mon atelier, dans mon travail, c'est que au même moment, c'est à Nice que je commence à faire des dessins, c'est à Nice que je commence à regarder les choses, c'est à Nice que, un jour, par exemple, en étant, me rendant compte que je suis au fond Ben, etc., je ne suis pas d'accord avec eux, je fais un truc que Martinez n'a rien fait, une espèce de.
Ouais.
C'est ma participation, voilà, parce que je n'allais pas faire. Voilà. Mais, donc à Nice, si vous voulez, quand je suis adolescent, j'ai une mobylette. Et je me promène beaucoup, et indépendamment de l'image que cette ville a aujourd'hui, en plus, depuis quelques jours, on a vu qu'elle a encore une image qui ne s'est pas arrangée, et c'est quand même une très, très belle ville. Et surtout, c'est une ville qui a une histoire formidable. Et je disais tout à l'heure, j'évoquais déjà comment on a à Terra Amata, qui est aussi le titre d'un roman de Locchio, mais moi, j'ai participé à des fouilles, donc on a des choses qui ont des milliers d'années avant Jésus-Christ, et on a... Après une présence romaine qui est forte et qui est belle, mais on a très vite dans le Moyen-Âge, au Moyen-Âge, des églises romanes, alors dans le haut pays, parce que la vie intellectuelle, enfin la vie, c'était l'axe Nice-Turin, puisque il n'y avait pas de port à Nice, Nice était tout petit, c'était une ville enclavée, et donc il y a cet axe-là, et. Il y a toute une vie. Il y a un petit opéra qui s'appelle Béatrice de Tende, parce qu'il y avait des marquis, des comtes, etc. C'était des titres avant, pas ceux de Napoléon III, et qui renvoyaient à des valets, quasiment. Et il y avait des peintres, et il y a une famille de peintres, comme à Venise, il y a des familles de peintres. À Nice, il y en a une qui s'appelait les Bréas. Louis, François, Joseph Bréa, qui ont tous vécu longtemps, c'est-à-dire qu'ils couvrent une grande période, et qui ont fait des peintures magnifiques, qu'on voit dans un village qui s'appelle Lioche, où il y a 17 habitants. En plus, c'est difficile, mais on les voit aussi au musée. Et donc, moi, j'ai découvert, enfin, je vous racontais Ben et l'art contemporain et Matisse et si vous voulez, et Matisse et Picasso, puisqu'à l'époque il y avait un journal, le journal du Parti communiste, un quotidien qui s'appelait Patriote et qui faisait faire le 1er janvier, la première page c'était Picasso qui faisait un dessin. qui donnait après au journal, qui en tirait des lithogravures, qui vendait pour faire vivre le journal, etc. Donc c'était dans le quotidien de tous les jours. On n'avait pas Picasso. Picasso, ça coûtait le prix d'un journal. J'en ai encore dans mes caisses en Catalogne. Je les ai gardés pendant longtemps et je les ai toujours. Donc on vivait avec Picasso. Et en même temps, il y avait, donc si vous voulez, avec la même joie, le même bonheur et la même importance, je regardais les Bréas. Les Bréas et ses rétables avec les Prédel. Et après, bon, je m'intéressais un peu aux Prédel, les Prédel qui racontent à la fois, qui servent à deux choses, c'est-à-dire à éclairer, à rajouter de l'information au sujet. Qu'est-ce qui s'est passé avant la mise au tombeau? Donc l'histoire, c'est une espèce de bande dessinée. Et puis en même temps, ça donne aussi l'information souvent sur ceux ou celui qui ont commandé l'œuvre, etc. Donc j'en gardais moi aujourd'hui, bien modestement, l'idée d'une géométrie. Voilà. Sinon, que d'une manière générale, c'est le haut qui explique le bas et le bas qui explique le haut. Et moi, je renverse un peu ça. Et au mois d'août, je me trouve à ce moment-là au milieu de l'été et j'explique comment dans le livre, alors que quand j'étais plus jeune, j'aimais l'été. Et l'été a changé, moi aussi. Et je suis maintenant plus mal avec l'été. L'été, j'ai besoin d'aller dans les montagnes, d'avoir frais et surtout d'avoir moins de monde, et il y a moins de monde à la montagne l'été, je peux vous le dire encore, j'ai passé trois semaines dans les montagnes cet été, il n'y avait personne, et c'était formidable, enfin des gens, mais en même temps, cet été-là, il n'y avait personne, mais pas une espèce de vide, puisque nous étions dans les montagnes suisses, où malheureusement je ne vais que pour voir les montagnes, je rêverais d'y aller vérifier mes comptes, mais malheureusement, je le regrette profondément, mais j'étais avec des amis suisses que j'aime beaucoup, et sachant l'intérêt que nous avons, Marie et moi, pour les choses de la musique, et particulièrement pour Maurizio Pollini, il nous avait organisé une journée, enfin deux jours à Lucerne, où on a eu, encore une fois, ce mélange auquel je tiens. On a la chance de... Vous savez, la table pleine dont je parle, nous, on a une table pleine, je ne vois pas pourquoi je vais la raser, quand la table est faite de Pollini, de Beethoven, qui est-ce qui dirige Pollini, qui dirige Abado, et que en même temps on a la collection Rosengart, on a Picasso, Klee, etc. Donc et en plus la nature, mais pas la nature. Je regardais hier sur une, vous savez, les gens décrivent ces petits programmes très courts à la télévision de quoi ils rêvent. Il y a une chanteuse canadienne qui rêvait dans une île où il y avait des ours et des cocotiers ou je sais pas quoi. Moi je veux les cocotiers, mais je veux aussi Picasso et Pollini. Voilà, je suis un garçon gourmand. Et aussi les Weiner Schitzel. Voilà le mois d'août et ce mélange-là, où il y avait effectivement des dessins que j'avais fait au Maroc quelques temps avant de cactus, mais il y a aussi des photos de cactus. Et je fais un joli mélange. Et voilà, vous aimez la toile, moi je suis ravi. Et il y a mon copain Nouvel au début, là, avec le bâtiment Nouvel. Tout ça est un joli mélange.
Donc on va terminer avec, enfin presque terminer, avec donc les femmes de Séville. Et ça, c'était un tableau de mai, pendant la Semaine Sainte.
Alors, nous allons avec Marie assez régulièrement. Enfin, nous allions, maintenant un peu moins, mais on est allé plusieurs fois de suite à la Semaine Sainte à Séville. Et alors, à la Semaine Sainte à Séville, quand nous y allions, j'avais à la fois un problème avec Séville, puisque je ne parle pas espagnol. Et puis aussi, c'est très intriguant, c'est cette espèce de foi. À la fois, c'était très beau. Donc, je me rendais compte que les seuls... C'était des sentiments esthétiques que j'avais, mais j'avais aucune... cette foi qui anime tout le monde et qui est belle. J'étais étranger, enfin, ça m'intriguait, enfin, mais en même temps, c'était tellement beau. Vous savez, il y a une phrase de Camus assez belle qui dit « La découverte de la religion par l'art en Italie ». Au fond, c'est tellement beau, la religion en Italie, qu'on ne peut pas... On peut pas partir. À la limite, pour être vraiment au plus près de ces choses-là, il faut se mettre à y croire un peu, et c'est pas plus mal. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé à Séville, mais enfin calmement. Et donc j'étais très très heureux. Mais quoi faire? C'est tellement beau, si vous voulez. Ce que dans ma tête, je voulais. En plus, effectivement, je suis andalou. Je sais pas combien, 5% ou oui, en Louis XXV. Parce que catalan, je sais pas, en fait, tout mélanger. Je suis aussi alsacien, mais beaucoup moins. Lyonnais, beaucoup moins. Enfin, et donc, et en tout cas, je porte ce nom. Donc, mais quoi faire avec ces vies? C'est tellement beau, c'est pas sous, c'est tellement beau, ces nuits. Et surtout, ce qui est, à mon avis, en tout cas pour moi, dans ces nuits, c'est tout est magnifique. Mais ce qui est encore le plus beau et le plus fort, c'est ce qui est entre les choses. C'est-à-dire que c'est ce qui. Cette addition dont on ne peut faire qu'une partie de l'opération. On peut mettre la musique, moi j'adore la musique des passos, c'est ces espèces de clairins, comme ça. Les fleurs, les sculptures, les gens sont beaux, les gens sont très très beaux. Ce silence, cette espèce de foi. Et alors, si on met plus, seulement on tire une ligne, égale, et le égal, on peut pas, parce que c'est trop. Je sais pas, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Donc, je pensais à ça quand le lundi de Pâques a sévi, donc quand c'est terminé, le dimanche de Pâques, le lundi de Pâques, il y a une corrida. Et on avait vu le matin, une chose très belle, les carouages, enfin des équipages. Et le soir, il y avait cette corrida. Et je repensais à ça. Et je me disais quand même, je suis à Séville, je suis tout ça. Qu'est-ce que je pourrais faire avec Séville? Et je me rendais compte que c'était trop fort. Il y avait trop de choses. Enfin, je ne pouvais pas refaire un truc en découpant, etc. Et devant moi, il y avait des jeunes femmes et des femmes moins jeunes. Et elles avaient toutes ces peignetas, ce peigne. Si vous voulez, tout d'un coup, entre moi et la corrida, à certains moments, entre moi et le monde, entre moi et Séville, il y avait cette espèce de peigne à trous qui passait. Et vous savez, c'est comme une espèce de persistance rétinienne. Quand on regarde une lumière forte, on a la lumière encore pendant longtemps dans l'œil, une espèce d'éblouissement. Et j'avais. Et après, on va boire, etc. Et il y avait toujours ces peignes. Je repérais les peignes que j'avais repérées. Le jeudi saint, parce que je dis ça à Toulouse, à Séville, c'est très beau. Il y a une chose qui se passe qui est assez formidable. C'est tout le monde rêve de un moment où, quelles que soient les classes sociales à laquelle on appartienne, tout le monde communie ensemble. C'est assez formidable. Aujourd'hui, c'est un peu, ça n'a pas tendance à se passer tous les jours. Et à Séville, le jeudi saint, il y a deux moments. Il y a le jeudi saint où, dans les rues, quel que soit le milieu social, y compris une femme de ménage, parce qu'il y a une dame qui venait chez nous, l'appartement que nous avons loué, faire le ménage, et on avait des amis qui appartenaient, sinon aux élites économiques, en tout cas aux élites, je ne sais pas comment dire, enfin, qui étaient là assez vite depuis la nuit des temps, et qui en avaient les titres, et les maisons qui allaient avec, et qui étaient habillées tout en noir. Et tout d'un coup, c'est comme l'uniforme. Moi, je trouve que tout le monde est plus beau avec un uniforme. Toutes les femmes sont habillées en noir, toutes les femmes ont un pignetta. Elles ont du corail. Et elles sont très belles. Et aussi, alors même, si on regarde, on s'aperçoit que les femmes n'ont pas le même âge. Les plus jeunes, jusqu'aux grands-mères que nous croisions et que nous connaissions. Et donc, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu social, il y a une espèce de moment où tout le monde est pareil et tout le monde est beau, etc. Et ça aussi, à la feria, où, quel que soit le milieu social, les gens ont le même robe, que ce soit la duchesse d'Albe, enfin, à peu près la même, d'ailleurs, que la femme de ménage. Et souvent, enfin, certains arrivent avec leur calèche, mais les gens de conditions modestes, comme on dit, pour parler des pauvres, quand on ne veut pas en parler, louent un cheval et arrivent avec leur cheval et arrivent avec leur truc. Et elles sont magnifiques. Et donc, si vous voulez, en même temps que je faisais ce tableau, ce qui est un tableau, parce que c'est un vrai tableau, celui-là n'est pas à la main, donc c'est un peignetta, j'écrivais un petit texte que je trouve très beau. Je peux vous le lire,
évidemment.
Parce que j'ai vu qu'on disait Madame Bovary, je vais vous lire Madame Martinez maintenant. Voilà, et je le trouve assez beau.
Oui, tout à fait.
Il vous plaît? Mais vous le lirez peut-être mieux que moi, parce que
non, allez-y.
Il faut les voir quand vers midi, le jeudi saint, elles vont par deux, elles vont par trois. Elles envahissent la place devant San Salvador, dans un silence recueilli, grand peigne d'ambre, menti de nuit. Il faut les voir, plus tard le soir, immobile dans la violence des saetas, quand les grands peignes d'or, dans leur dessin baroque, se devinent sous la dentelle et s'inclinent devant l'église violée de Quinta Angustia. Il faut les voir, aux heures de madrugada, les larmes comme un phare, devant Maria la Bianca, présenter leur croix de perles et de corail, aux forêts d'œillets blancs, aux mille chandeliers d'argent, aux lumières des bougies qui traversent la nuit au rythme lourd des musiques. Il faut les voir, le dimanche à 5 heures de l'après-midi, à peine adolescente, tout habillée de blanc, la mantille assortie au grand peigne de nacre, déjà grave, savante et aimante, aux lenteurs de Kourou, aux souvenirs d'Ordonez, aux légendes parfaites des maigreurs manolettes. Il faut les voir sans mantille, le peigne rouge, longue robe de poids et de volant, frapper des mains et des talons et devenir musique le temps d'une casseta. Il faut les voir bien hautes sur les chevaux, trare et corto, chapeau gris au large ruban, à peine incliné sur le regard. Quand elles relèvent le menton, il faut les voir les femmes de Séville. Voilà. C'est joli, hein. C'est donc, voilà, c'est, pour moi, c'était Séville, c'était les femmes. Mais c'est vrai que d'une manière générale, je ne me lasse pas de regarder les femmes. Comme j'espère vivre vieux, je regarderai certainement un jour les hommes avec autant de joie que les femmes. Pour l'instant, j'en suis aux femmes. Et ne soyons pas, je vous en prie.
J'aurais aimé qu'on parle des bodégones, mais on ne va peut-être pas avoir le temps.
Ça sera un prochain livre.
Ça sera au prochain livre. Voilà. Je voudrais juste qu'on... voilà, parce que le temps passe. Vous vous définissez juste comme un judéo-chrétien d'Europe du Sud.
Oui.
Vous
oui.
acquiescez.
À la fin de, quand même, de ces 3 ans, il fallait bien que je sache à peu près...
Enfin.
À peu près 2-3 choses. Alors, pour ce qui est de la Terre... effectivement, je dis et je répète que je suis de ce monde qui va de Séville à Salzbourg et de Lisbonne à Palerme. Et en gros, cette Europe du Sud. Hier, j'ai vu à la mairie du 8e arrondissement une petite exposition sur les Bourbons de Naples. Pour ceux qui s'intéressent à ça, il y a un très beau livre d'Harold Acton qui s'appelle Les Bourbons de Naples, qui raconte ce qui s'est passé. Ces gens étaient formidables. Et vraiment, ils ont fait des choses formidables. Car certes, par exemple, la dimension sociale de ces Bourbons de Naples, qui étaient espagnols, puisque Charles III, on le ramène en Espagne parce qu'il y a un mort, on renvoie le petit. Donc c'est ce monde-là où on se mariait entre nous, entre catholiques, apostoliques et romains. Mais moi, je prie maintenant régulièrement la Vierge Marie, qui est là. Et elle était juive, alors je ne vois pas pourquoi. C'est pour ça que je dis judéo-chrétien. Et j'y tiens. Et de ce monde-là. Mais je dis aussi dans le livre que si un jour les choses devenaient... Je suis attaché à ces terres, mais plus aux idées qui y sont présentes, aux valeurs qui sont les siennes, à la musique qui est la sienne. Et que si un jour elles n'existaient plus ici ou elles étaient en danger ici, comme je ne suis pas un combattant, j'irai peut-être ailleurs où je pourrais continuer à les aimer, à les vivre et à les voir. Mais pour l'instant, je suis ici, bien, et j'y reste. Donc voilà pour mes terres. Et encore... Mais ces terres qui sont plus définies par les idées qui sont les leurs, par ce que les hommes y ont fait, que par la terre elle-même. Toujours pas d'accord avec les gens qui pensent que voilà, je suis de là et je tue les autres. Et en plus, ces terres-là, bien évidemment, elles sont ouvertes à tout le monde. À tout le monde. Pour autant qu'on les aime. Standardisé, je suis chez moi, où les gens me ressemblent. Si vous aimez le cassoulet comme moi, vous n'allez pas aller dans un restaurant japonais et demander qu'on serve du cassoulet. C'est gênant pour vous et c'est gênant pour eux, parce que le cassoulet ne sera jamais bon dans les restaurants japonais. Et en plus, vous allez leur faire de la peine, c'est pas bien, non ? Voilà. Donc voilà où j'en suis de mes terres. Ça, c'est pour mes terres. Pour la religion, effectivement. En plus, vous savez, quand j'ai perdu ma grand-mère, elle est morte trop jeune, mais à 93 ans. Et à la fin, on me disait, les gens qui m'aimaient bien me disaient, gentiment, avec le plus de circonvolution possible, me disaient, écoute, avait l'air de me dire, tu sais, elle vieille, elle va mourir, ta grand-mère. Et plus, j'étais pas idiot, je savais que j'allais mourir, pas imbécile. Mais plus on me disait ça, et plus j'aimais ma grand-mère. C'est-à-dire que si j'avais... et plus je revenais la voir, plus je la gâtais, plus je la faisais rire, plus je la faisais... Voilà, elle adorait le champagne, elle vivait le champagne, et j'adorais ma grand-mère. Plus je lui téléphonais souvent, à l'époque, toujours, j'appelais tout le temps ma grand-mère, et parce qu'on n'avait pas encore de portable, etc. Et donc, et cette Europe, bien évidemment, je ne suis pas idiot, elle est mal barrée, quoi. Elle est mal barrée, très très mal barrée, mais ça, au contraire, plus on me dit qu'elle va mourir, plus je vois qu'elle est en mauvais état, et plus je l'aime. Et cette religion catholique, plus on l'attaque... Tout le monde l'attaque aujourd'hui, quand je vous dis, avec les problèmes que ça pose, qu'est-ce qu'il a besoin de venir, ce pape allemand, quand même, je ne veux pas faire de peine, vous expliquer que le Christ n'est pas mort, n'est pas né il y a 2313 ans. Qu'est-ce qu'on en a à faire, vous dire un truc, qu'il soit né 4 ans ou 5 ans après, on s'en fout. Dire, c'est, bon, voilà, donc tout ça, j'aime la religion catholique, absolument, j'aime les églises avec de l'encens, j'aime un peu de latin, j'aime tout ça, mais à part ça, je suis... très tolérant complètement et j'essaie d'être moderne. Je suis pour le mariage homosexuel, je suis pour le divorce, je suis pour l'avortement et voilà. Mais qu'on n'enlève pas Paolo Uccello et le reste. Voilà. Donc j'ai déjà plus ou moins répondu à la terre, oui. À la religion et pour la peinture. Il se trouve que dans ce monde-là, on a des manières de faire et qui sont... on est une des rares régions dans le monde, parce que c'est plutôt bien, pourquoi pas... je ne veux pas enlever la baguette aux Chinois, comment on n'enlève pas la fourchette. Et non, j'ai un grand respect pour ce monde-là, ce monde que Barthes disait être de l'Empire des Signes. Mais ça, c'est pas fin du tout, et alors que j'ai moins de respect pour d'autres parties du monde. Mais dans mon monde, à moi, dans notre monde, à nous, on a des choses auxquelles je tiens. C'est-à-dire que, par exemple, on a en musique des formes qu'on a mis... tout le monde a fait de la musique un jour ou l'autre. On a tous fait des arts premiers. Seulement, nous, on en a fait après, heureusement pour nous. Et en musique, on a la sonate, le concerto, l'opéra. Et ça renvoie à des choses très précises. Et ce sont des exercices. De la même manière qu'en peinture, en littérature, on avait le théâtre, en livre, on a la pensée. Parce que le livre, ça n'a pas existé partout. Il y a même des pays où ils sont obligés, en tout cas, d'écrire dans la langue des autres. Mais nous, on a notre langue, qui est belle, français, je trouve ça très beau. Donc on a des livres de philosophie, des livres de poésie. En poésie, on avait les Alexandrins qui ont disparu, et c'est bien dommage. Qui sont d'ailleurs, vous savez, quand on tue un taureau, après on va faire un coup de... Encore une fois, on le tue une deuxième fois. Alexandrin est mort parce qu'on ne l'apprend plus beaucoup à l'école. Mais en plus, il vient de mourir une deuxième fois puisque les responsables de ce pays les plus importants, enfin, qui en principe devraient représenter la France au Salon, c'est quand même la moindre des choses, ne font plus de liaison. Vous avez remarqué. Malgré que je leur veux bien, parce que je peut-être c'est pas la socialement on peut pas reprocher, le parti il a décidé, on répète le sujet, je suis prêt à tout, parce que pour finir ça leur fait de la peine qu'à eux et aux partis politiques pour lesquels en général j'ai aucune tendresse particulière, mais si on fait pas de liaison il n'y a plus d'Alexandrin, et si on touche à Bérénice, moi, si on touche à un parti politique ça me dérange pas, si on touche au machin, mais si on touche à Bérénice je trouve ça dommage et vraiment triste. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a Georges Steiner, lisez Georges Steiner, il dit des choses sublimes sur Bérénice. Et donc voilà, donc c'est formidable. Donc voilà, donc en peinture, on a eu des natures mortes, des nus, des paysages, des catégories comme ça, des peintures, des gravures, des sculptures. Et aujourd'hui, effectivement, dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde difficile, il faut bien que les gens qu'on a mis dans cette condition de consommation excessive et de culture, consommation maximum, culture minimum, il faut bien aussi qu'ils puissent avoir des joies. Et au fond, l'art contemporain, ça sert aussi à ça. Aujourd'hui, c'est dommage, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui... Pierre Boulez, qui est un grand musicien contemporain, peut diriger Wagner et sait lire une partition. Aujourd'hui, les architectes contemporains, les plus jeunes, quels qu'ils soient, et quelle que soit la forme qu'ils prennent dans leur vocabulaire, moi j'aime Peter Zumthor, Alvaro Siza, j'aime pas Zaha Hadid, mais en même temps elle vient effectivement d'où elle vient, elle vient de la tante Caïdal. Quand on voit le truc qu'elle a fait pour Chanel, moi le jour où j'ai vu Kadhafi en France, c'est exactement la même chose. Bon, elle vient pas de la fauteuil de Louis XVI, elle vient donc elle fait. Mais quel que soit le choix, la culture des architectes, le monde qu'ils représentent et dont ils sont fiers, et je respecte toujours la fierté des gens, ils ont une espèce de cahier des charges qui fait, dans les maisons qu'ils font, on peut souffrir, on peut être heureux, on peut mourir, on peut naître, on peut faire l'amour, on peut travailler, etc. Et effectivement, la seule chose où on peut être dans la plus grande liberté, c'est l'art contemporain. Alors non, effectivement, y compris jusqu'à sa dématérialisation, Et donc, je trouve que c'est formidable que ça existe. Moi, si ça permet ça, c'est bien. Mais enfin, moi, ce n'est pas mon choix. Moi, je veux continuer ce qui s'est fait. Et en plus, je m'aperçois que des gens continuent à le faire bien, très bien. Il y a des peintures tous les jours, il y a des gens très jeunes. Il y a un truc qui s'appelle le prix Marin, qui est donné par un fabricant de peinture à Arcueil. Le dernier artiste qui vient d'avoir à 30 ans, il est suisse. Son nom m'échappe à l'instant et c'est magnifique ce qu'il fait. C'est très figuratif et c'est de la peinture. Mais il y a de la peinture non figurative qui est faite et qui est très belle. Et voilà. Maintenant, je comprends que, comme de toute manière, vis-à-vis de la terre, de la religion, et de, je suis un peu marginal et minoritaire, je l'accepte complètement vis-à-vis de l'art contemporain aussi. Voilà.
Bien. Donc, vous traverserez les âges. Donc, vous traverserez les âges.
Que Dieu vous écoute, madame.
Merci beaucoup.
Merci, merci. Non,
merci. Merci beaucoup à vous d'avoir été là.